Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, journée spéciale.
Mobilisation contre la réforme des retraites.
Olivier Dussopt est dans le sud de RMC. Bonjour monsieur le ministre.
Bonjour.
Vous êtes ministre du Travail, c'est vous qui portez cette réforme des retraites. Depuis hier, c'est dans l'hémicycle de l'Assemblée avec un débat très houleux. On va y revenir lors de votre prise de parole. Vous avez d'ailleurs été traité de vendu, vous qui êtes sous renvoyé devant un tribunal pour soupçon de favoritisme. On y reviendra, mais... Aujourd'hui, c'est la troisième journée de mobilisation. Est-ce que vous regardez ce qui se passe dans la rue ou est-ce que vous dites maintenant, non, ça y est, c'est à l'Assemblée?
Toujours. Il faut toujours regarder ce qui se passe dans une manifestation, dans une mobilisation. Il ne faut jamais être dans le déni. Les deux premières ont été des manifestations importantes avec un certain nombre de messages. Il y a des Français qui s'opposent à la réforme, qui disent, nous ne souhaitons pas travailler plus. Et d'une certaine manière, on peut entendre ce message.
Il
n'y
a pas des Français, il y a beaucoup de Français. Une majorité de Français.
Pardon, mais j'ai dit il y a un instant que les mobilisations étaient importantes. Il n'y a pas de déni. Mais il y a des Français qui nous disent, nous ne voulons pas travailler plus, parce que c'est un effort et nous pouvons l'entendre. Et aussi les Français qui ont des inquiétudes pour leur avenir, des inquiétudes pour l'avenir de leurs enfants. Je pense que la réforme que nous proposons, celle que nous portons, que nous défendons au Parlement, c'est une réforme qui est nécessaire parce que le système est déficitaire. Et si on tient au système, il faut le sauver. Nous avons aujourd'hui un peu plus d'1,5 cotisant pour un retraité. Il y a 30 ans, c'était 3 cotisants pour un retraité. Ça montre qu'il faut faire quelque chose.
C'est la réforme ou la faillite, c'est ce qu'a dit votre collègue Gabriel Attal.
Vous savez,
il y a un côté après, c'est moi ou le chaos.
Non,
quoi. Bah,
non, mais Gabriel Attal s'appuie sur des chiffres, les chiffres du Conseil d'orientation des retraites. Aujourd'hui, nous sommes en 2023, le système sera déficitaire d'1,8 milliard, mais dès 2027, c'est 12,5 milliards par an, et puis ça se creuse. Et en 2040, c'est 25 milliards par an. Si on ne fait rien, mais vraiment rien du tout. D'abord, il n'y a aucun nouveau droit, on n'augmente pas les petites pensions, on ne tient pas mieux compte de la pénibilité. Mais non seulement il n'y a pas de nouveau droit, mais en plus, en 10 ans, c'est 150 milliards de déficit accumulé, donc de dettes en plus.
On va rentrer dans le détail sur ces questions de pénibilité, sur ces questions de seniors, sur la question des carrières longues. Mais tout de même, ce qui me frappe, c'est que vous dites les chiffres du corps sont évidents. Si on ne fait rien, ça s'écroule. Vous parlez des milliards de déficit. Est-ce que, honnêtement, tout cela est audible pour les Français? Un, le corps, le rapport du corps, chacun y voit ce qu'il veut. Et vos adversaires eux-mêmes, prenant la même référence que vous, c'est-à-dire le rapport du corps, prennent d'autres scénarios possibles dans ce même rapport. Et puis surtout, vous dites, il y a des milliards de déficits. Après le quoi qu'il en coûte, on se dit que les milliards, au fond, quand vous les voulez, vous les avez.
Alors, deux réponses à ces deux questions. La première, sur le rapport du corps. Le rapport du corps, le Conseil d'orientation des retraites, c'est un rapport qui est adopté par les membres du Conseil, qui sont les partenaires sociaux. Il y a effectivement plusieurs hypothèses, mais il y a deux choses à avoir en tête. La première, c'est que, quelle que soit l'hypothèse, quelle que soit la convention comptable, pour reprendre des termes très techniques du rapport, il y a un déficit sur les 25 années qui viennent.
Mais qui n'est pas forcément de la même ampleur.
Et quand on regarde l'hypothèse centrale, c'est celle sur laquelle tout le monde a toujours travaillé. Et cette hypothèse centrale, elle dit quoi? Elle dit que c'est l'hypothèse d'un taux de chômage à 4,5% en 2027. C'est notre objectif, mais vous conviendrez avec moi que si on passe de 7 à 4,5% de chômage, tout le monde sera content, mais que c'est un bon résultat qu'il faut atteindre. Dans ces conditions, et dans ces conditions pourtant optimistes, c'est 12,5 milliards de déficit en 2027 et presque 15 en 2030. Ça, c'est la première chose. Et puis ensuite, il y a une réflexion, et je la partage avec vous. Nous étions, pendant la période de pandémie, pendant la période de mesures d'urgence, pour sauver l'économie, dans un contexte où, effectivement, nous avons beaucoup dépensé. J'étais le ministre du budget, je sais ce que nous avons dépensé. Mais nous l'avons fait dans un moment de crise très particulière, dans un moment où, ça peut paraître très technique, mais la Banque Centrale Européenne, la Commission Européenne, avait ouvert les vannes et protégé, garantissait tout ce qu'on pouvait emprunter. Ça ne veut pas dire que ça ne crée pas de la dette, mais c'est de la dette garantie. Et aujourd'hui, nous sommes dans un moment plus normal économiquement. Et j'ajoute que nous sommes dans un moment où, du fait de l'inflation, du fait des tensions économiques, non pas en France, mais partout dans le monde, les taux d'intérêt que la France paye quand elle emprunte sont à 3%.
Donc on ne peut plus aller chercher des milliards comme ça, comme on a pu le faire encore il y a deux ans.
Mais ça signifie deux choses très claires, très basiques. Soit on laisse filer la dette, et ça n'est pas soutenable parce que la dette est devenue beaucoup plus chère et insoutenable. Soit on peut dire on ne travaille pas plus. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on augmente les cotisations, les prélèvements. Ça signifierait, si on écoutait par exemple la France Insoumise, sans même parler de leur idée de retraite à 60 ans qui coûte 85 milliards d'euros, mais juste face au déficit d'aujourd'hui, sans leurs idées totalement infinançables, ça signifierait demander en 2030 à chaque personne qui travaille, à chaque salarié, à chaque travailleur, un effort de 500 euros par an. 500 euros de cotisation.
Vous avez chiffré à 500 euros par an l'effort qu'il faudrait faire si vous ne faites pas par salarié en France.
En 2030, mais c'est très facile. Hein. Il suffit de diviser le déficit public de 2030 par le nombre de personnes qui cotisent.
Olivier Dussopt, Laurent Berger alerte. Il alerte sur votre incapacité, dit-il, à regarder ce conflit social avec les bonnes lunettes. Et il précise surtout que il a l'air de... Vous avez l'air de... favoriser la violence en quelque sorte. C'est-à-dire que quand les gilets jaunes étaient violents, vous leur avez lâché du lest. Quand les manifestants ne sont pas violents, et c'est ce qu'il dit, au pic de leur mobilisation, les gilets jaunes ont réuni 284 000 personnes, dit Laurent Berger, avec malheureusement trop de violence. Le 31 janvier, il y avait 1,27 million qui ont manifesté pacifiquement. Faut-il l'outrance, la violence et la hargne pour se faire entendre ?
J'ai beaucoup de respect pour Laurent Berger, il le sait. Et je crois que malgré nos désaccords qui sont réels et que nous assumons, il y a une capacité à parler et à se dire les choses de manière assez directe. Et je pense même, pour ce qui me concerne en tout cas, je ne vais pas parler à sa place, en confiance. Je ne crois pas qu'il y ait évidemment de prime à la violence ou à l'outrance. La réforme que je présente, celle que nous avons présentée il y a quelques jours publiquement avec la Première Ministre, ce n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois. Et si ça n'est pas la même réforme qu'il y a 4 mois, c'est parce que les concertations que nous avons menées sur la retraite minimum, on devait la faire pour les nouveaux retraités, on l'a fait pour tous les retraités. Ça signifie qu'1,8 million retraités actuels, c'est plus d'un sur dix. C'est important, je me permets de finir cette phrase. Sur ce point-là, sur la pénibilité, sur les carrières longues, sur l'emploi des seniors, la réforme que nous présentons a été améliorée grâce à la concertation. Je ne dis pas, parce qu'il faut être très précis et très clair sur les termes du débat. Je ne dis pas que là où il y a convergence avec telle ou telle organisation syndicale, il y aurait un accord. Il n'y a pas d'accord parce que les organisations syndicales ne veulent pas entendre parler de l'âge. Et donc, comme ils ne veulent pas entendre parler de l'âge...
Et que c'est le point que vous ne voulez pas négocier.
Ça signe un désaccord.
Mais sur les points, vous avez dit, par exemple, que cette réforme, elle était juste pour les femmes. Et quand on a regardé dans le détail, on s'est bien rendu compte que c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et que, proportionnellement, les femmes allaient quand même devoir plus travailler.
Non.
Pourquoi ne l'avez-vous pas dit?
Non. Alors, là aussi, pardon, mais il faut être extrêmement précis. La réforme n'est pas injuste pour les femmes.
Elle n'est pas juste. Vous avez dit, alors, elle est juste. Vous l'avez même vantée comme telle.
Eh bien, je vais vous répondre en deux points, mais vraiment, il faut que vous me laissiez aller au bout des deux phrases. La première phrase, c'est pour dire que jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a un an, les femmes, structurellement, parce que leurs carrières sont plus souvent hachées, partaient plus âgées que les hommes, en départ effectif. Aujourd'hui, c'est le même âge. Demain, en 2030, les femmes partiront plus jeunes que les hommes. Plus tard, parce que nous remontons l'âge, donc les hommes, les femmes travailleront plus, mais plus jeunes que les hommes, ça c'est la première chose. Et il y a une question qui est posée avec cela, c'est la question des trimestres de maternité. Parce que ces trimestres, dans les années 70, remplacés, compensés, des trimestres qui ne pouvaient pas être cotisés, aujourd'hui ils viennent en plus de trimestres cotisés, et parfois pour certaines femmes qui ont une carrière complète, il y a moins d'intérêt, et donc c'est pour ça qu'on va ouvrir un débat sur les droits familiaux.
Moi, sur les droits familiaux, j'aimerais bien quand même vous poser une question. Vous connaissez la vie des parents des quatre premières années de l'enfant?
Oui, mais justement.
Non, mais la vie des parents des quatre premières années de l'enfant. Parce qu'il y a un petit alinéa, quand même, Olivier Dussopt, qui est que oui, on peut partager ces trimestres avec le père, mais uniquement si on l'a décidé avant le quatrième anniversaire de l'enfant. Qui a inventé ce système?
Madame de Malherbe, j'ai même en ajouté. On peut partager. Les femmes ont 4 trimestres de maternité. Il y a 4 trimestres. Que les parents peuvent se partager avant les 4 ans de l'enfant.
Mais avant les 4 ans de l'enfant, qui y pense avant les 4 ans d'un enfant? Vous avez vu la vie des jeunes parents?
Avant de me couper, laissez-moi vous dire que je suis d'accord avec vous.
Bon.
C'est quelque chose qui est intordable, pardon pour l'expression, mais il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui que la maternité, c'est 4 trimestres pour les femmes du régime général et 2 trimestres pour les femmes de la fonction publique? Comment est-ce qu'on explique aujourd'hui?
Donc vous allez améliorer tout ça encore.
Quand on parle de pension de reversion, qu'il y a 13 régimes différents et qu'avec 13 régimes, il y a autant d'inégalités. J'ai dit hier à la tribune, la Première Ministre a dit il y a 15 jours que sur ce sujet des droits familiaux, on veut un débat large. Et j'ai même ajouté hier un point qui est important, c'est qu'aujourd'hui, il existe une prestation d'accueil du jeune enfant pour aider les couples qui justement accueillent un enfant sur des questions de garde. Les classes moyennes en sont souvent privées et j'ai dit que nous étions prêts à relever les plafonds pour couvrir plus de monde. Puis il y a une deuxième chose que je voulais vous dire, vous m'avez arrêté avant la deuxième phrase. Quand nous disons que cette réforme apporte de nouveaux droits aux femmes, je prends deux exemples.
Deux exemples, parce qu'ensuite, il y a les auditeurs qui voudraient les interroger, notamment sur les carrières longues.
Deux exemples. Le premier exemple, c'est que nous allons intégrer, justement, dans la durée prise en compte pour savoir qui est carrière longue ou pas, les trimestres de congé parental, et nous allons intégrer, pour savoir qui a le droit ou pas à la retraite minimum, des trimestres aussi de congé parental. Quand on sait que souvent, ce sont les femmes qui ont les carrières hachées, que malheureusement, parce que notre système de retraite est le reflet des inégalités de carrière, ce sont elles qui sont les plus exposées aux petites pensions, intégrer ces trimestres, c'est une mesure de protection pour les femmes qui ont les plus bas revenus et qui ont les carrières les plus précaires.
Et on voit que le débat se poursuit donc et qu'il y a, vous en avez encore peut-être un petit peu sous le pied pour pouvoir négocier dans l'hémicycle, mais écoutez aussi le témoignage et les questions des auditeurs. Ils sont avec nous, ils vous interrogent juste après le journal de 8h. Vous restez avec nous, Olivier Dussopt.